Bienvenue à tous. Seigneur, tu nous accueilles maintenant. On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces compagnons, ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ces frères parole et présence. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Amen.
Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Lui seul est notre délivrance. D'un même élan, venons à lui. Il sera toujours notre appui. Chantons notre reconnaissance.
Nous louons le Seigneur. Tu es, Seigneur, plus étonnant que tout. Devant toi, la terre roule comme un fruit rond dans l'infini des espaces. Pour toi, sous les arcades du ciel, les étoiles tissent des filets d'or. Dans le cœur des vivants, ton nom est posé comme une nouvelle pleine de merveilles. Par les lèvres des vivants, ton nom est crié comme un chant d'espoir. Tu es, Jésus, plus étonnant que tout. Tu es le Seigneur, tu t'es approché de nous. Comme un enfant, tu as fait tes premiers pas sur la terre des hommes. Tu t'es approché de nous, et comme un homme, tu as travaillé, et sur ton corps, la sueur a coulé. Tu t'es approché de nous et tu as cherché des amis et la tristesse t'a blessé quand l'heure fut venue de les quitter. Tu t'es approché de nous et tu as crié de douleur et devant la souffrance, tu as ouvert les bras. Tu as connu le tombeau et la solitude derrière la lourde pierre, mais tu as rejeté la mort et tu es devenu le maître de la vie. Aujourd'hui est un jour nouveau pour chacun et chacune de nous et toute la création. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 99, les strophes 1, 2 et 3.
Toi qui répondis à tes
pouvez vous asseoir. Nous écoutons maintenant la volonté de Dieu. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen.
Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans ta clarté. Lui qui t'écoute, chemin de vérité. Je regarde à ton amour, ô salut, qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre.
Devant la volonté de Dieu, nous disons maintenant nos égarements. Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ta présence. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent. Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes, nous fermer à l'autre. Aide-nous à nous accueillir les uns les autres. Fais-nous sans cesse discerner ta volonté là où nous sommes. Pour la situation que nous vivons, rends-nous efficaces pour établir ici et maintenant ton amour et ta paix, ta justice. Fais-nous prendre conscience que dans notre cœur, tous les jours, nous créons des lois que nous mettons à la charge des autres, par lesquelles nous les jugeons. Aide-nous à nous soumettre à ton amour, cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle, qui affermit la voix sans force, qui fortifie le faible qui trébuche. Donne-nous de voir, de comprendre l'autre à travers des yeux de frère, ceux de ton Fils souffrant sur la croix, ceux de tes témoins, signe de ton amour qui pardonne. Seigneur, guide-nous en Jésus-Christ. Amen.
Rédempteur des païens, montre-toi, enfant divin, que s'étonne l'univers. Dans la chair.
Mais notre péché n'est pas le dernier mot. Nous écoutons donc les paroles de grâce de la part du Seigneur. À toi seul, tu ne peux transformer le monde. À toi seul, tu ne peux porter la souffrance des hommes. À toi seul, tu ne peux conformer ta vie à l'espérance. Alors, que ta culpabilité s'apaise, reprends courage. Sache que des milliers d'hommes et de femmes comme toi espèrent, prient chante et crois que des milliers comme toi vivent de cette grâce que Dieu te donne maintenant, son pardon en Jésus-Christ, afin que tu continues ce service de créateur et d'inventeur à ta mesure, à la mesure qui t'a été donnée. Amen.
Séculaire du Dieu tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frère Amo jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire,
pardonnés et libérés, nous confessons maintenant notre foi. Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée aux autres jusqu'à la mort, et pourtant souveraine. Cette vie est le mystère qu'il me faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle je suis appelé. C'est pourquoi, guidé par le peuple d'Israël qui a préparé sa venue, éclairé par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, porté par la communion de mes frères en la foi, je crois en lui, Jésus de Nazareth, et avec eux, je le nomme Christ, fils de celui qui m'appelle, malgré ce que je suis, à partager cette vie qui triomphe toujours, de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec lui, l'éternellement vivant, avec le secours de son esprit et avec tous les hommes, j'essaie de marcher vers la cité fraternelle où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous appelle à lui et qu'en attendant, nous nommons Dieu. Voici ce que nous croyons. Amen. Il vient.
Il vient sans apparence. Des pauvres, il est roi, il connaît leurs souffrances et par la foi, on n'a plus d'errant. En l'espérance, en ce
vous pouvez vous asseoir. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, éveille-nous à l'attente. Rappelle-nous que notre petit monde n'est pas tout, que notre témoignage a toujours besoin de ta parole, que tu dises aussi cette parole en dehors de nous et de nos églises. Surprends-nous, renouvelle-nous, remets-nous en question et rattache-nous plus fortement à Jésus. C'est en son nom que nous te le demandons, au moment où nous écoutons les lectures bibliques. Amen. Je vous lirai ce matin deux des trois textes du jour. Tout d'abord, dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert, « Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » J'entends une voix qui dit, « Fais une proclamation. » Mais je réponds, « Laquelle ?» La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner, il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine, il est comme un berger qui mène son troupeau et rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. » Et puis nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert et il lançait cet appel, changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière le Jourdain. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 87, les strophes 1, 2, 3 et 4. « Béni est l'homme qui compte sur le Seigneur. Il est son assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage reste toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de porter du fruit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, comme un arbre planté au bord de l'eau, enracine-toi dans l'Évangile, lève tes branches vers le soleil, laisse monter en toi la sève de la vie, et quand la saison arrive, produis du fruit. Alors que la France vient de célébrer hier, discrètement il est vrai, compte tenu d'autres événements médiatiques, la Journée nationale de la laïcité, en référence à la loi votée le 9 décembre 1905, donnant le coup d'envoi à la séparation de l'Église et de l'État, j'ai envie de dire que si dans son principe cette loi a été une bonne chose, elle a néanmoins provoqué des dégâts collatéraux dont nous souffrons encore aujourd'hui avec toujours plus d'acuité. C'est en effet au nom de cette loi que nos églises, protestantes en particulier, ont été amenées à scinder formellement les activités relevant du culte et celles relevant de la diaconie. Or, non seulement nous avons acquiescé à cette injonction, mais qui plus est, nous l'avons, je le crains, parfois intégrée dans notre vie spirituelle comme dans notre théologie. Ainsi, dans nos églises, nous sommes tentés, et souvent nous succombons à cette tentation, d'admettre qu'il est normal que pour les uns, la foi soit d'abord affaire de convictions intimes, de progrès dans la connaissance des textes bibliques, d'assiduité à la prière personnelle ou en église, et que pour les autres, cette même foi s'exprime avant tout dans des actions au service des plus défavorisés, dans des luttes sociales ou des combats politiques, au nom de l'Évangile, de justice, de paix et de solidarité. Et pourtant, tout au long de l'histoire de nos églises, et ceci en parfaite continuité avec la vie, le message et les actes de Jésus-Christ, ces deux dimensions n'ont jamais été séparées. C'est d'ailleurs ce que l'on perçoit dans ce texte du prophète Ésaïe que nous venons de lire, où se mêle intimement l'allégresse de la prière de louange et l'appel à modifier le cours de l'histoire pour faire une place, un chemin à ce royaume qui vient. Et c'est en outre tout le sens que nous rappelle cette période de l'Avent dans laquelle nous venons de rentrer, où la proclamation par le peuple de la bonne nouvelle, ou à la proclamation par le peuple de la bonne nouvelle se mêle à une montée en ferveur de l'attente qui s'active pour que s'ouvrent des brèches dans un monde qui aspire à la paix et à la justice. Ainsi, partout où les églises se sont implantées, lorsqu'elles ont su se libérer des manipulations des puissants, partout il y a eu de manière concomitante le désir de célébrer un culte par une prière commune, par une annonce explicite de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, acteur toujours vivant de la présence du royaume, et le désir de signifier en acte la réalité effective et présente de ce royaume de paix, de liberté, de justice offert à tous. C'est pourquoi il nous faut non seulement refuser cette séparation, mais au contraire affirmer, réaffirmer fortement que vie spirituelle, célébration liturgique commune et engagement social, politique, c'est-à-dire au service de la cité et de celles et ceux qui l'habitent, sont les deux facettes inséparables du témoignage que chacun de nous et que nous tous ici rassemblés en Église, nous devons à Jésus-Christ, parole de vie faite chair pour le salut de tous. Alors ce matin, tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous un aspect particulier de la vie spirituelle du croyant et voir comment elle est source, origine et force pour un renouvellement permanent de notre présence en tant qu'Église, au cœur des réalités de notre monde. Je veux parler ici de notre culte, où la lecture biblique, la prédication, prennent leur place dans ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire, littéralement, l'œuvre commune du peuple de Dieu, avec ses chants, ses prières, ses silences, cette célébration communautaire de l'œuvre du Christ, inaugurée il y a de nombreuses générations, que nous réitérons dimanche après dimanche, qui doit se prolonger publiquement et qui au passage nous rappelle que nous sommes appelés à l'unité bienveillante et fraternelle, eh bien, cette célébration, cette liturgie qui scande notre vie commune tout au long de l'année, de l'Avent maintenant à la Pentecôte demain, cette liturgie est ce qui sans cesse refonde notre présence auprès de ceux qui attendent une bonne nouvelle dans leur vie. Cette liturgie souvent construite avec les mots, les chants de ceux qui nous ont précédés dans la foi, et la force qui nous est transmise pour soigner, guérir, nourrir, vêtir, loger, accueillir, interpeller les pouvoirs politiques, bousculer les assoupissements religieux. La liturgie, culte rendu à la venue du royaume, loin d'être un vieux rituel sclérosé, est ce temps où chacun de nous, et tous ensemble, nous pouvons entendre l'appel. Et toi, qu'as-tu fait de ta foi ? En as-tu fait un trésor à conserver jalousement ? En as-tu fait une appartenance qui te sépare ? En as-tu fait une identité qui te paralyse ? Ou bien en as-tu fait une soif de partage, un désir de briser les murs, un feu qui brûle en toi pour reconnaître en tous des frères, des sœurs, en attente de paix, de lumière, d'espérance. Ainsi, diaconie et liturgie, lutte et contemplation, service risqué et exigeant de l'autre, de tous les autres, et célébration du culte, sont-ils unis de manière irrévocable. Et pour illustrer cela, je voudrais citer deux grands théologiens du XXe siècle. Deux grands théologiens qui, au cœur des années les plus sombres de l'enfer nazi, ont exprimé cela. Le premier, Karl Barth, inquiet de la montée du nazisme, entendant le bruit des bottes se répandre en Europe, père spirituel et acteur de la résistance au totalitarisme, a dit un jour que le cœur de cette résistance était là, dans sa rue, un peu plus loin, dans ce couvent de carmélites qui, imperturbablement, dans leurs prières chantées, rappelaient quotidiennement que la victoire du Seigneur était acquise et balayerait toutes les puissances du mal. Le second, Dietrich Bonhoeffer, mort en martyr à cause de son engagement auprès de ceux qui voulaient abattre Hitler, nourri de toutes les traditions chrétiennes de l'Europe, dit un jour dans les mêmes circonstances que seuls avaient le droit de chanter le grégorien ceux qui s'engageaient résolument contre l'antisémitisme. Deux théologiens, une situation dramatique et à eux deux une affirmation centrale, la liturgie et la diaconie, la contemplation et la lutte pour la justice, non seulement ne se distinguent pas, mais se supposent réciproquement et surtout se fécondent mutuellement. Et de plus, dans cette chaire de l'oratoire du Louvre, sans parler des pasteurs qui animèrent la résistance au nazisme, comment passer sous silence la prédication de Wilfred Monod, qui avant cette funeste période rappelait toujours avec vigueur à quel point la célébration de la liturgie et de la scène en particulier était une injonction, un ordre de mission pour aller au-devant de toutes les injustices et sans cesse les combattre, pour que la création soit toujours plus conformée à ce royaume attendu déjà inauguré, en attente de témoins fervents et responsables, pour en discerner et mettre en œuvre les chemins. C'est ainsi qu'il créa les veilleurs, veilleurs que nous sommes tous appelés à être. Là où la prière commune et le culte sont négligés, le témoignage prophétique, le zèle pour la justice s'émousse et sombre dans une charité molle et confortable. Et là où la ferveur pour le service de l'autre, la quête d'un monde plus accueillant pour les plus petits, plus attentif et ouvert à toutes les souffrances, s'évanouissent. Le culte devient alors un rituel hypocrite, une désobéissance à celui qui nous envoie et compte sur nous pour être ses témoins. Maintenant, avant de revenir à ce service qu'en tant que chrétien nous devons au monde, un service exigeant, risqué, parfois incompris, contesté et même menacé, il nous faut lever un malentendu sur le culte, sur cette liturgie sur laquelle nous fondons notre existence. Le temps de la liturgie n'est pas un temps sacré, un temps en dehors du temps. Cela fait bien longtemps que le voile du temple s'est déchiré, qui séparait le sacré et le profane. Le temps de la liturgie n'est pas un temps religieux. Il est simplement le temps de l'obéissance au commandement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, à propos de la scène. Enseignez, baptisez, et vos œuvres seront plus grandes que les miennes. Le temps de la liturgie est ce temps où la réalité de la présence du royaume nous est rappelée pour que la vérité fasse son chemin et que la liberté s'accomplisse et que la justice trace sa route. Le temps de la liturgie est ce temps où chacun de nous met de l'ordre dans sa vie, où l'Église se met en ordre de marche pour que le témoignage rendu à celui qui a tout accompli ne s'éteigne pas. C'est ce temps où la force de la parole du Seigneur nous est rappelée telle qu'elle résonne dans le texte du prophète Ésaïe. Un écho qui de génération en génération nous est parvenu, de telle sorte que l'évangéliste Marc puisse nous dire à nouveau « Aujourd'hui encore commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Un aujourd'hui qui nous rejoint, en sorte que nos pauvres ressources propres de femmes et d'hommes affrontées au désespoir de notre temps s'enracinent dans l'ultime réalité du Christ vivant, victime victorieuse de toutes les idoles et de toutes les forces contraires à la vie, et portent ainsi les germes de toute résistance, de toute insurrection, de toute résurrection. La liturgie, alors, loin d'être un repli frileux, devient ce temps où la présence de l'Église au monde se vivifie, se libère, s'arme d'audace nouvelle pour vaincre avec la force qu'elle a reçue les malheurs du temps. L'Église devient tout alors tout entière diaconie, servante comme son maître de ce monde qui attend une bonne nouvelle, solide comme le roc de sa parole, réelle comme sa vie, plus forte que la mort. Alors, ce service est tout d'abord un service humble, réaliste et loyal, mais aussi exigeant à l'égard de tous ceux qui ont reçu mandat de diriger ce monde. En effet, au nom de Jésus-Christ, Seigneur de toutes choses et de toutes autorités, il appartient à l'Église, lorsque l'inconséquence devient notoire, lorsque le politique devient tout entier spectacle et séduction, lorsque le dérisoire se répand, lorsque l'injustice devient indécente et intolérable, il appartient à l'Église de rappeler à chacun le sérieux de sa responsabilité. De telle sorte que toute autorité se tienne à distance de ce qui dégrade son mandat, que ce soit l'opportunisme, l'ambition égoïste, la corruption, l'arrogance et le mépris. Et ce service est aussi de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire du dévoilement de ce qui est caché, de l'alerte, lorsque le brouillage et l'écran de fumée se répandent et le mensonge devient l'habitude. Dans un monde qui perd ses repères, la vérité ne peut relever ni des modes, ni des sondages, ni des opinions susurrées par les médias. dans un monde fragilisé par des peurs préfabriquées. Et je pense ici en particulier à cette peur de l'étranger alimentée par de fausses alarmes. La vérité n'est pas dans les consensus sécuritaires et identitaires, mais bien dans une parole que l'Église se doit de porter sans faiblir, une parole qui propose une insurrection pacifique, une désobéissance civile, comme disait Paul Ricoeur, une parole qui met à mort toutes ces peurs mensongères, ces idolâtries éphémères, pour qu'enfin une vie fraternelle, juste et confiante soit le terreau d'un avenir heureux partout et pour tous. Et puis, l'Église, fidèle à celui qui l'envoie, est au service de la liberté, une liberté qui veut affranchir de toutes les chaînes, qui libère de tous les esclavages, au propre et au figuré, de toutes les oppressions morales et matérielles, qui par-delà les désastres sociaux, économiques, politiques, inaugure des chemins nouveaux. L'Église, servante de la liberté, est aussi ce lieu où s'inventent sans cesse, dans une imagination créatrice salutaire, les signes d'un avenir autre que celui qui veut s'imposer à nous, comme si on ne pouvait pas faire autrement. L'Église ne rêve pas d'un avenir différent. Elle se doit d'en poser les fondements, sans ostentation, dans l'humilité, mais avec détermination. Elle se doit sans cesse, comme nous l'avons entendu chez Ésaïe et Marc, elle se doit sans cesse d'aplanir les chemins, d'abaisser les obstacles, de redresser les sentiers, de faire refleurir les déserts. C'est ainsi que chacun pourra voir le royaume qui se fait proche, à portée de voix, à portée de main. Ainsi, l'Église qui célèbre dans sa liturgie la venue de ce royaume dit et vit ce qu'elle célèbre, et ce qu'elle vit et dit, elle peut alors le célébrer dans sa liturgie. L'appel du Christ qui résonne ici et maintenant, pas moins fort qu'il y a 2000 ans, pas plus lointain que celui qu'ont entendu les mages, les bergers, les disciples ou l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, l'appel du Christ qui résonne en ce temps de l'Avent, temps de l'attente fervente et active, est comme un battement de cœur qui appelle au rassemblement pour le rencontrer et le suivre, lui, le Sauveur, et qui ensuite nous envoie, nous disperse, nous dissémine pour être dans le monde des témoins qui appellent à leur tour à la vie, à la vérité, à la liberté. Prends garde à ton pied, nous dit l'Ecclésiaste, quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Le temps du culte n'est pas un temps de confort facile dont on ressort indemne. Il est ce temps risqué où tu vas te livrer à l'obéissance qui transfigure ton chemin, à l'écoute qui va te faire vivre en vérité, au partage qui va t'ouvrir à la véritable liberté. Mais par-dessus tout, n'aie pas peur, car c'est le temps où celui qui t'aime de toute éternité, quelles que soient tes fragilités, te prend par la main et te conduit vers de verts pâturages. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 4. Vous asseoir. C'est maintenant le temps des annonces.
Merci à Gérard de me permettre de prendre la parole sans trop d'hésitation. Avant de faire véritablement les annonces, je tiens à remercier le pasteur Jean-Pierre Rive pour ce culte et de nous avoir indiqué des voies de fraternité à suivre. Ces voies de fraternité, elles se vivent à l'heure actuelle Salmono, où un groupe de nos paroissiens prépare un repas pour tous ceux qui sont déshérités, solitaires et qui ont besoin de chaleur humaine. Ce jour, 70 personnes vont être accueillis pour un repas, ces repas de période de l'Avent qui nous font penser que nous devons nous serrer les coudes, même s'il ne fait pas aussi froid qu'il nous l'avait promis il y a quelques jours. Merci aussi à Sarah Kim de nous accompagner à l'orgue et au chœur d'entraîner nos chants sous la direction de Fabien Aubé. Et je tiens à vous remercier aussi pour votre présence qui permet à l'oratoire d'être un peu plus chaud. Alors maintenant, il y a les annonces qui doivent être plus concrètes. Cet après-midi, à 16h, il y a le concert de Noël. Le programme initial a été un peu modifié, mais nous pouvons leur faire confiance. Sylvie Jougnot, soprano, nous prêtera sa voix. Yannick Henry, le pianiste. Sarah Kim, l'organiste. Et tout le chœur de l'oratoire donc, seront présents. Ils nous permettront d'écouter Bach, Mendelssohn, Dakin, Telemann, enfin tout un programme assez divers. Pour lundi, 11 décembre, il y a la conférence du groupe protestant des artistes de 12h à 13h30. Après un culte, Béatrice Olarbo fera une conférence. Pour le 12 décembre, mardi, le grec biblique pour progressants, de 19h30 à 21h, avec Aurore Mériot. Pour le mardi 12 décembre, la lecture biblique de l'après-midi est annulée ce mardi. Vous avez remarqué que le pasteur Marc Pernaud, qui devait assurer le culte n'est pas là, c'est que son arrêt de travail est prolongé jusqu'au 10 janvier. Mais aussi, le pasteur Richard Cadou est absent. Il a subi une petite intervention et j'espère que très vite il pourra reprendre sa place. Mais pour ce mardi, la lecture biblique de l'après-midi est donc annulée. Par contre, le soir, vous êtes invité à la Société en débat pour la conférence sur l'apocalypse du politique. Elle a lieu de 20h à 21h30 et elle sera animée par Vincent Delecroix. Vous noterez qu'il y avait une petite erreur de lieu. Cette conférence aura lieu à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire et non dans le Temple. Mercredi 13 décembre, la lecture biblique œcuménique de 20h à 21h30 aura lieu à Saint-Eustache, malgré l'absence du pasteur Marc Pernaud, et sera animée par le père Jérôme Prigent. Jeudi 14 décembre, le chœur de l'Oratoire répète de 19h30 à 22h, et ces répétitions sont naturellement très importantes pour que ce chœur nous accompagne si agréablement. Le samedi 16 décembre, l'hébreu biblique découverte a lieu de 10h à 11h et est animé par le pasteur Gilles Castelnau. Il y aura ensuite le concert spirituel de 18h à 19h au Temple avec une cantate de Bach. Le dimanche 17 décembre, le culte est présidé par Frédéric Chavel, professeur de dogmatique à la Faculté de théologie de Paris, mais il y a aussi l'éducation biblique qui sera fait, excusez-moi, il faut parfois ne pas parler trop vite, la fête de Noël de l'après-midi est à 16h au Temple. Il y aura les témoignages des enfants et les chants de Noël. Ce moment là aussi est très important. Donc dimanche prochain, nous aurons les jeunes présents dans le Temple. Je vous souhaite un beau dimanche. Ah oui, j'ai oublié, merci Gérard. Tout à l'heure, après le culte, un pot est prévu à la sacristie pour vous accueillir et répondre à vos questions. Heureusement que tu es là.
Il y a autre chose ? Oui, je vais l'annoncer. Je vais annoncer l'offrande. Je vais dire quelques mots néanmoins. Accueille maintenant, Seigneur, notre humble geste d'offrande comme une réponse à l'attention bienveillante que tu nous portes sans cesse comme un écho aux multiples sollicitudes que tu nous témoignes sans te lasser. Amen. Merci au cœur. Nous nous unissons dans l'intercession. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Nous voulons te confier celles et ceux qui souffrent et aux côtés desquels nous sommes engagés. Nous te prions pour les plus pauvres dans notre société, ceux dont la dignité est offensée, ceux qui sont brisés par la guerre. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la maladie. Nous te prions pour ceux dont l'avenir est fermé, ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui sont abandonnés à la solitude. Nous te prions pour ceux qui ne font plus confiance à personne parce qu'on les a trompés et rejetés. À travers ce soutien concret et au-delà aussi, que chacun puisse sentir la chaleur et la force d'un amour partagé et donné à son tour. Dieu notre Père, nous te confions ceux et celles qui parmi nous ont le cœur à ce service, s'y engagent, accompagne-les dans leurs actes discrets comme dans leurs actes visibles. Fortifie-les dans les moments ingrats ou désespérants. Réjouis-les dans les moments de succès et d'amitié. Enseigne-leur à recevoir et à apprendre de ceux vers qui ils se tournent. Rappelle-leur que c'est en ton nom et en notre nom à tous qu'ils accomplissent ce service et rend chacun de nous solidaire de toutes ces actions. Dieu notre Père, nous te prions pour que chacun se sente appelé, où qu'il soit et selon ses moyens, à s'associer à la mission de l'Église, afin de planter sur la terre des vivants, la foi, l'espérance, l'amour, la justice et la paix. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les rassemblons dans celles que ton Fils nous a enseignées, et nous nous levons pour dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi du désert, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs et voici le royaume. Il s'approche, il est là. Réveillons-nous. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais percer les ténèbres qui enveloppent la terre. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui n'a jamais pleuré. Prends ton courage et mets-le dans le cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne s'est pas donné. Découvre l'amour et fais-le connaître à l'humanité. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en tout lieu et de toute manière. Amen.